C'est
une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h.
On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir.
Partir un week-end en France.
À la mer ou à la montagne.
Et surtout avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti.
Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, à l'embouchure de la Loire, les pieds dans l'océan. C'est une ville ouvrière. On y a construit, et on y construit toujours, les plus beaux paquebots du monde. C'est aussi une ville de béton, reconstruite à 85% après la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, j'ai envie de vous montrer que ce béton, à Saint-Nazaire, a une âme et même une poésie. On va découvrir ensemble une soucoupe, une terrasse, un marché et même un intestin en béton. Et à la fin de cet épisode, vous saurez pourquoi un pied de géant s'est offert une séance de pédicure. Je m'appelle Cathy Kerzéro, je suis animatrice à Ici Loire-Océan et je suis fascinée par ces villes qui ont su se reconstruire. Les mal-aimées, les grises, comme Lorient d'où je viens, Brest, Le Havre et Saint-Nazaire où j'ai choisi de vous emmener. Ici, le béton militaire croise le béton fonctionnel, mais aussi insolite, voire loufoque. Bienvenue dans Partir à Saint-Nazaire, sous le béton, la poésie. Notre point de départ, c'est la base sous-marine. Elle a été construite pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands. C'est un bloc de béton, étrange, écrasant par son gigantisme. 300 mètres de longueur, 130 mètres de large et 18 mètres de haut. En superficie, c'est presque l'équivalent de 6 stades de football pour quasi un demi-million de mètres cubes de béton. Ce qui est intéressant avec cette base, c'est qu'elle a été transformée en lieu multiculturel. On y trouve une salle de concert, un lieu d'expo, l'office du tourisme et un musée, Escale Atlantique. Je vous conseille d'y aller pour plonger dans l'histoire des paquebots de légende. On embarque sur le France ou le Normandie, on passe sur les ponts, dans les coursives et même dans la salle à manger en première classe. Si on marche 10 minutes en sortant de la base, en passant par le pont du Pertuis et le pont métallique de l'avenue de la Prise d'Eau, on arrive au-dessus de la forme Joubert. Comment je pourrais la décrire ? C'est une immense baignoire de béton de 350 mètres de long et de 50 mètres de large. Quand elle est vide, elle accueille les navires, les paquebots, les super yachts en construction. Ils y sont, c'est le nom, en cale sèche. On la remplit d'eau, on ouvre les portes sur l'océan et ils s'en vont prendre la mer. Et dans ces cas-là, c'est un vrai spectacle, puisque chaque habitant de Saint-Nazaire a un lien avec les chantiers navals et toutes les entreprises qui gravitent autour. Depuis 1865, plus de 170 paquebots ont été construits. Vous les verrez émerger au-dessus des maisons, des entreprises. On a l'impression que ce sont des immeubles géants. D'ailleurs, j'ai un autre conseil. Si vous voulez voir ces paquebots de plus près, je vous recommande les visites des chantiers de l'Atlantique. Uniquement des visites guidées au départ de la base sous-marine. Ça se passe en bus, durant 2 heures, avec des arrêts. Pour entrer sur le site, il faut la carte d'identité ou le passeport, des chaussures fermées, et vous pouvez ranger votre téléphone puisque, de toute façon, vous n'avez pas le droit de prendre de photos. Vous avez déjà bien marché, bien pris le vent. Mon conseil pour la pause déjeuner, c'est un vrai restaurant ouvrier, le Fin de Chantier. C'est à Méhan, à côté de l'une des entrées des chantiers de l'Atlantique. Les gars du chantier sont là. Quand vous êtes assis devant le bar en carrelage, de l'autre côté de la rue, il y a un paquebot sur des échafaudages. Vous remplissez votre assiette au buffet d'entrée. Et surtout, les frites sont maison. Tout ça pour une formule entrée, plat dessert autour de 16 euros. Pas mal, non? Mais si je vous ai emmené à Saint-Nazaire, c'est pour vous faire découvrir un lieu plus méconnu. Depuis la base, comptez 10 minutes en voiture ou un quart d'heure avec le bus hélice. Ce lieu étrange, c'est l'une des surprises architecturales de la ville. Et forcément, il est en béton. on est donc face à un ovni, le palais des sports de Saint-Nazaire. Mais pour tout le monde, c'est la soucoupe. Et c'est une soucoupe. Un bâtiment sphérique en béton armé qui s'est posé dans les années 60 avec à proximité gymnase, piscine, piste d'athlétisme et boulodrome. Le projet des architectes, c'était de créer une salle de sport pour accueillir des milliers de spectateurs sur un sol instable, un marécage progressivement asséché. Ils imaginent alors un bâtiment le plus léger possible, une sorte de coque inversée qui s'enfonce de 20 mètres dans la terre en s'appuyant sur 166 pieux. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que cette soucoupe ne s'est pas posée horizontalement. Elle est inclinée d'environ 25 degrés, comme si elle avait atterri trop vite. Et bien sûr, l'imagination s'envole, la mienne en tout cas. Elle me fait rêver, cette soucoupe, un mélange entre Star Trek et la guerre des étoiles. Charlie Fortis est fasciné comme moi par les villes de la reconstruction. Il est né à Casablanca, puis a passé son enfance et ses études d'architecture à Nantes. Et c'est entre autres parce que la lumière sur le béton à Casa et à Saint-Nazaire est identique qu'il est venu vivre à Saint-Nazaire.
Il y a une dimension utopique, je pense, qui se cache derrière un certain nombre de projets en béton. Et voilà, c'est vraiment cette alliance entre sublimer la technicité pour aller chercher une plasticité et une poésie. Donc quand on rentre dans un bâtiment comme la soucoupe ou d'autres, on a cette mise en scène de la foule et on a une certaine utopie du vivre ensemble. C'est-à-dire on vit pas chacun de son côté, on vit dans des moments de réunion et de partage. En fait, c'est des bâtiments qui s'imposent. Et on se retrouve avec cette imbrication d'échelle entre villes résidentielles, équipements, espaces publics et rapport au ciel. C'est des villes quand même très ouvertes, qui fait que du coup, il y a souvent une grande lumière qui arrive.
Et si vous voulez voir cette lumière, si vous voulez rentrer dans la soucoupe, je vous suggère de venir voir un match de volley ou un gala de boxe. Ou alors, il faut avoir envie de transpirer avec plus de 400 sportifs de Saint-Nazaire qui viennent tous les mardis à 18h45. Vous pouvez profiter gratuitement d'une séance de body art, un mélange entre yoga et fitness. Sinon, 24h sur 24, vous la découvrez à l'extérieur, vous en faites le tour, vous êtes sous ces parois de béton et c'est vraiment impressionnant. On reprend la voiture, 5 minutes, pour encore aller chercher cette lumière dans les halles. C'est un marché couvert reconstruit et inauguré en 1958 avec un toit en béton armé, 4000 mètres carrés sans un seul poteau. Ce toit, il est particulier parce qu'il est en dents de scie, ce qu'on appelle des sheds. Et ça, c'est typique des usines.
C'est des sheds industriels. Au lieu que la poutre soit droite, elle est cintrée, comme un croissant. Et donc, ça fait une toiture cintrée, éclairée par une lumière du nord, comme dans les usines.
Et puisque vous êtes là, remplissez le panier les jours de marché, le mardi, vendredi, samedi et dimanche. Et c'est ici aussi que vous pourrez trouver du sel à rapporter en souvenir, et surtout de la fleur de sel. Elle est cueillie 20 km plus loin dans les marais salants de Guérande. On repart, direction le front de mer. Il faut 25 minutes à pied pour rallier le quai de la Jetée au bout de la grande plage. Sur le sable, et ou dans l'eau, c'est en fonction de la marée, on trouve le pied, le pullover et le système digestif. Ce sont trois sculptures monumentales en béton. Elles font jusqu'à 7 mètres de haut. C'est une œuvre pérenne de Daniel Dewar et Grégory Jiquel et elles font partie du parcours d'art contemporain estuaire entre Nantes et Saint-Nazaire.
Personnellement, elles m'ont fait rire, elles me font de plus en plus rire. Donc on est art, paysage, espace public, infrastructure, nature. En fait, on ne sait plus exactement où s'arrête l'œuvre et où elle commence. Et ça, c'est intéressant. Pour moi, l'art, c'est quelque chose qui dérange, parce qu'il y en a deux qui ont été abîmés, vandalisés, diront certains, avec du vernis sur le pied ou un crocodile sur le pull.
Et vous vous souvenez, au début de cet épisode, j'avais évoqué une séance de pédicure pour un pied de géant. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Il y a quelques années, les ongles du pied ont été peints en rouge. Question ? L'art contemporain doit-il déranger ? Là, vous avez le sujet de votre apéro. Et pour le lieu, c'est à quelques mètres. Cherchez les parasols rouges et beiges. Vous allez trouver trois cafés-restaurants crêperies face à la mer, dans un lieu vraiment prisé des gens d'ici, la place du Commando. avec aussi en contrebas, sur le sable, une aire de jeu pour enfants, très chouette, tout en bois et cordage. Et à partir de là, vous pouvez profiter du front de mer. 3 km ont été aménagés pour les personnes à mobilité réduite, les vélos, les poussettes. Et si vous en voulez plus, vous pouvez attaquer les 2000 km du GR34, le sentier des douaniers qui va jusqu'au Mont-Saint-Michel et qui démarre à Saint-Nazaire. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée. Ce béton, on va le photographier. Mais cette fois-ci, le gris va se mettre au vert.
Donc maintenant, nous sommes à plus de 20 mètres d'hauteur. On est entouré de béton, mais on arrive quand même à apprécier les côtés végétaux de cette toit.
On est maintenant de retour dans notre base sous-marine, ou plutôt sur notre base sous-marine, sur le toit, là où Gilles Clément a imaginé ses jardins du tiers paysage. Ici, on peut se balader librement pour découvrir les jardins. Mais le mieux, c'est de venir avec un appareil photo ou un smartphone. Vous allez me dire, c'est normal et logique dans un lieu touristique. Mais l'endroit est tellement improbable, très graphique, ultra photogénique. Gilles Clément y a installé 3 jardins, notamment celui des Orpins. Là, ce qui est intéressant à saisir, c'est le contraste du béton, du gris et du vert jaune des euphorbes, ces plantes vivaces. Mon jardin préféré, ce n'est pas le plus spectaculaire, pour ne pas dire instagrammable, mais c'est, je trouve, le plus poétique, le jardin des étiquettes. Tout ce qui pousse ici est arrivé par le vent ou les oiseaux. Et le troisième, c'est celui du bois des Trembles, où on suit Maria Florencia Aversa. 107 arbres émergent de petites chambres de béton dans lesquelles vous rentrez, ce qui fait que vous ne voyez que la base, que les troncs. Il faut se courber et marcher dans les flaques d'eau.
Et dans cet espace, qui c'est un espace très particulier, c'est un espace sombre, humide, mais avec des ouvertures, ces arbres qu'ils poussent, qu'ils vont un peu gagner sur les couleurs gris de béton.
Et il y a d'autres photos à prendre, juste en face de la base, de l'autre côté du bassin, sur un bâtiment un peu similaire, toujours en béton, mais plus petit, l'écluse fortifiée. Là aussi, vous pouvez monter sur le toit pour découvrir une autre œuvre du parcours estuaire. La suite de triangles de Felice Varini. Des formes géométriques rouges, éparpillées sur tous les toits autour du port. Et à un endroit précis sur la terrasse, il faut le chercher, rien n'est indiqué, tous ces triangles s'organisent autour d'une même ligne. Vous faites un pas de côté et l'œuvre disparaît. C'est le principe de l'anamorphose. Un dernier conseil au moment de faire votre valise pour venir à Saint-Nazaire. N'oubliez pas votre maillot de bain. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous aurez le choix entre une vingtaine de plages et de criques. Celle que je préfère, c'est la plage de Saint-Mars-sur-Mer, l'un des quartiers de Saint-Nazaire. Là où Jacques Tati a tourné les vacances de Monsieur Hulot. Mais ça, vous le découvrirez quand vous viendrez. Vous venez d'écouter Partir, un podcast ici, imaginé à Ici Loire-Océan. Mixage Franck Payon, production Clémence Olivier, studio de création Ici. Remerciements à l'architecte Charlie Fortis et à Maria Florencia Aversa de l'association Base pour Béton à semer ensemble, une asso citoyenne qui végétalise le toit de la base sous-marine. Pour écouter d'autres épisodes, il suffit de vous abonner à Partir. On est disponible notamment sur l'application Ici et la plateforme Radio France. À très bientôt.
Vous écoutez Ici.
Can you tell me so? C'est 100%.
100% chanson française.
Salut, ici.
C'est MPL.
Et Clou. On est heureux de vous faire écouter notre dernier single, Sans avion.
Un coup de cœur ici.
Si on va plus dans les avions, dis-moi où est-ce qu'on ira. J'aurais voulu voir le Japon, j'aurais voulu voir ça. On ira à l'aéroport, comme on va au musée. Comme on visite les châteaux forts, pour voir comment c'était. Dans une certaine mélancolie, on se sentira bien. On ira jusqu'au duty free, respirer les parfums. Et sur la piste où les géants s'élancent dans les airs, on ira se perdre un moment dans ce nouveau désert. J'avais toujours le cœur serré. De chaque côté des océans, l'amour s'inventera. On trouvera bien d'autres manières pour pouvoir voyager. On demandera à la poussière de nous dire son secret. J'avais toujours le cœur serré au décollage.
Les conseils, les bons plans, à tout moment.
On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir.
Partir en week-end en France.
À la mer ou à la montagne.
Et surtout avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti.
La Bretagne, c'est son bord de mer et ses terres. Avec ses falaises, ses landes et ses forêts. Deux sont incontournables. Brocéliande et Huelgoat. C'est cette dernière qui nous intéresse. Et je vous emmène dans le Creys-Braise, le centre Bretagne, dans les monts d'Arrée, pour découvrir cette forêt mythique. Sa force, c'est qu'il suffit de quelques pas pour être transporté. On va à Huelgoat, on va au Huelgoat. Les deux formulations sont possibles. Huelgoat, c'est une parenthèse enchantée. Une forêt légendaire avec la mare aux fées, le chaos de Gargantua, ou encore la grotte du diable. Et je vais vous raconter l'histoire des légendes qui entourent cette forêt. Et à la fin de cet épisode, je vous donnerai la technique qui vous permettra de soulever une pierre de 137 tonnes sans risquer un lumbago. Je m'appelle Perrine Clément, je suis animatrice à Ici Paris Gisèle. Et j'adore cette forêt, par sa diversité. C'est une forêt luxuriante, avec des mousses, des fougères, des ronces. Ici, les arbres essayent de se faire une place. On va retrouver des chênes, châtaigniers, des bouleaux, le pin sylvestre ou encore le pin maritime. Et si vous venez très tôt le matin ou très tard le soir, vous pourriez entendre des bruits générés par des renards, blaireaux, fouines ou par des korrigans. Ce sont des lutins bretons. Bienvenue d'en partir. Huelgoat, à la rencontre du mystère. On arrive dans la commune de Huelgoat. D'ailleurs, Huel, c'est un mot breton qui signifie eau, et Guat pour forêt, bois. La mutation des deux mots donne Huelgoat, le haut bois, avec des pentes assez fortes qui donnent un aspect montagneux. On se dirige sur la place Aristide Briand. C'est une place rectangulaire et aérée. Et autour de nous, des maisons en granit. La commune de Huelgoat, c'est plus de 1500 habitants qui, malgré l'engouement pour sa forêt, est restée fidèle à elle-même. Ce n'est pas un village musée, mais un lieu authentique. Les commerces fonctionnent tout au long de l'année. Il y a des restaurants, des bars et des boulangeries. Pour vous rendre à Huelgoat, depuis la Bretagne, vous pouvez utiliser les transports du réseau Bresgo ou le service de covoiturage Westgo. Et si vous vivez en dehors de notre région, l'idéal, c'est de faire Paris-Morlaix en train. À Morlaix, vous prenez le bus, il existe deux lignes, la 936 et la 960. Arrêt, Huelgoat. Et là, vous êtes à 2 minutes à pied de la forêt. Avant de quitter la place Aristide Briand, pensez à passer chez Sonia. Cette ancienne mécanicienne aéronautique est revenue à Huelgoat par amour. En 1999, elle reprend avec son mari la droguerie créée par ses beaux-parents. Depuis 2013, Sonia gère toute seule cette caverne d'Ali Baba qui dispose de plusieurs rayons. Bricolage, peinture ou encore la coutellerie. Il reste encore une poignée de drogueries en France et elles sont toutes différentes. Il faut rentrer dans la droguerie de Sonia pour saisir l'ampleur de ce lieu. Élu meilleur commerce indépendant de Bretagne en juillet 2024. Et d'ailleurs, si vous deviez rapporter un souvenir de la région, c'est ce couteau, le Glen. Il est fabriqué à Pouescat. On est toujours dans le Finistère, mais cette fois dans le Nord. Le Glen, c'est un couteau de poche. Le manche est fabriqué en filet de pêche recyclé. Il en existe de toutes les couleurs et la lame est fabriquée à tiers. C'est un objet entièrement fabriqué en France. Et sachez que si vous offrez un Glen à quelqu'un, il devra vous payer un coup à boire. Si la tradition n'est pas respectée, un korrigan pourrait vous entraîner dans son monde dont vous ne pourriez jamais ressortir. On quitte la place Aristide Briand en empruntant une venelle. C'est une petite rue étroite située à côté de la pharmacie. Cela nous permet de rejoindre plus rapidement le bord du lac artificiel. Fondée pour les besoins de l'ancienne mine de plomb argentifère de Locmaria-Bérien, commune proche de Huelgoat. À l'extrémité du lac se trouve le Moulin du Chaos, qui est désormais un lieu d'exposition d'artisanat d'art. C'est drôle comme nom, le Moulin du Chaos. Mais de quel chaos on parle ? Il se trouve à l'intérieur de la forêt. Suivez-moi, on va rencontrer le géant Gargantua. Quand je rentre dans la forêt du Huelgoat, je bascule aussitôt dans un autre monde. J'ai l'impression d'être dans l'un des décors du Seigneur des Anneaux, persuadé de croiser un hobbit ou un elfe. Parce qu'il y a ces rochers immenses au-dessus de notre tête, sur les côtés, je suis à la fois saisi par ce site spectaculaire et je m'avance prudemment, je me baisse, je prends la pleine mesure de mon corps. Je me sens toute petite et j'avance à tâtons face à l'immensité de ces pierres. Il existe deux parcours pour découvrir les sites légendaires de la forêt du Huelgoat. Prenez le Moulin du Chaos comme point de départ. Le parcours d'1,7 km permet de découvrir 5 sites. Le grand parcours, balisé en jaune, fait 9,5 km et on découvre l'ensemble des sites. Il faut compter 3 heures, 3h30 en prenant votre temps. Vous pouvez retrouver la carte de la forêt pour 1 euro auprès de l'Office de tourisme des Monts d'Arrée ou la télécharger gratuitement sur leur site internet. Pour y aller, évitez les tongs. Vous risquez de glisser. L'idéal serait des baskets fermées, car en cas de pluie, vos pieds restent bien au sec et au chaud. Puisque l'on parle chaleur, l'été n'est pas la meilleure période pour apprécier la forêt du Helgoat. Je trouve qu'il y a trop de monde et l'accès à certaines parties de la forêt devient difficile, voire impossible. Je vous conseille de venir plutôt au printemps. Les roches sont recouvertes d'un vert tendre, ou en automne, quand la nature propage ses couleurs chaudes. Parcourir la forêt de Huelguat, c'est vivre une expérience. Quiconque s'est aventuré dans la forêt vous transmettra son ressenti. Certains évoqueront un sentiment de plénitude, une source d'énergie. D'autres verront dans les formes tortueuses des arbres des présences humaines. Une expérience intime dans une forêt préservée.
Et c'est ça qui nous importe à nous, Huelguatins, que ça reste à notre image un lieu naturel mais tellement vrai.
Pour Rémi, la forêt de Huelguat, c'est avant tout celle de son enfance. Dans les années 60, avec ses camarades, il faisait partie de la confrérie des petits guides, une fonction autorisée à l'époque par le syndicat d'initiative de la commune.
On était des mineurs, certes, c'était admis par tous les visiteurs de voir des gamins qui racontaient des histoires, qui racontaient des légendes. Et c'était ça le sel, en fait, de notre activité. Et nous, nous y trouvions notre compte parce qu'à l'époque, ça payait très bien.
L'argent récolté à la fin de la saison était partagé et permettait à Rémi, par exemple, d'acheter son premier transistor. On avance encore un peu et on arrive face à un tas de gros rochers arrondis, recouverts de mousse. C'est un chaos rocheux. C'est le chaos de Gargantua.
Gargantua se promène en Bretagne. Il arrive ici en Argoite, dans les Monts d'Arrée, où là les gens sont un peu plus pauvres, même beaucoup plus pauvres. Les terres sont moins fertiles et il a peu à manger. Donc il est furieux, il descend à 20 km d'ici et là il trouve un endroit où il y a des pierres énormes et donc pour se venger de la population du Helgoat qu'il ne l'a pas rassasié, eh ben, il balance ces pierres, je dis bien balancées, n'importe comment, d'où l'origine du chaos.
Allez, venez, on fait quelques pas en arrière pour se rendre à la grotte du diable. Comme son nom le laisse supposer, c'est un endroit bien particulier qui peut même effrayer. Je descends à l'aide d'une échelle métallique étroite. C'est sombre, humide et le bruit peut impressionner. L'eau que vous entendez, elle vient du lac de Huelguat et chute de plusieurs mètres, serpente ensuite entre les rochers. Il s'agit de la rivière d'argent. Alors je vous arrête tout de suite, n'espérez pas faire fortune. Cette rivière s'appelle ainsi parce qu'au XVIIIe siècle, la mine de plomb argentifère de Locmaria-Bérien puisait dans la rivière ses richesses.
Jadis, un révolutionnaire s'est réfugié dans cette grotte compte tenu qu'il était poursuivi par les chouans. Sa vie était en jeu et comme il faisait froid, il a fait un feu pour se réchauffer. Comme il avait faim, il a sorti de sa besace une fourchette. Quand les chouans sont arrivés au-dessus, là d'où nous sommes, là, ils ont vu se projeter sur les parois de la grotte le chapeau du révolutionnaire qui possédait deux plumes. Ils ont vu la fourchette qui symbolisait le trident. Et donc ces gens-là ont cru voir le diable sur les parois de la grotte. Ils se sont mis à hurler « Au diable, au diable !» Et c'est depuis ce temps-là qu'on l'appelle la grotte du diable.
Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au début de l'épisode, je me suis engagé à vous donner la technique pour faire bouger une pierre de 137 tonnes. Il s'agit de la roche tremblante. 7 mètres de long, 3 mètres de haut et 2,80 mètres de large. C'est l'attraction de la forêt du Helgoat. Chaque année, des milliers de visiteurs tentent de faire bouger la roche à l'aide de leurs mains, de leurs pieds ou encore de leur dos.
Elle a bougé. Elle a bougé.
Entre nous, je vous dévoile la technique infaillible. Pour faire bouger la roche, mettez vos pieds là où s'est formé au fil du temps et des tentatives un trou. Collez votre dos à la roche, poussez avec vos cuisses et laissez revenir la roche. Repoussez, laissez venir. Et ainsi de suite. Suivez le rythme et elle devrait bouger. Avant d'oublier, pour préserver la forêt et ses animaux, pensez à garder vos déchets dans votre sac. Si vous avez encore un peu de temps, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée. On va au cloître Saint-Égonec. C'est à 15 km de Huelguat. Visitez le musée du loup. L'empreinte du loup est présente dans nos expressions ainsi que dans nos légendes.
Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle des lanternes à loup. Le loup, si vous vous rappelez encore une fois la salle précédente, il a une très très bonne vue et il a peur du feu. C'est les lampes, on les mettait sur les rebords de fenêtres autrefois et le loup les voyait au loin. Il savait que l'homme était à proximité et il ne s'approchait pas.
Astrid est chargée de mission au musée du loup du cloître Saint-Égonec. On parcourt les différentes salles du musée pour découvrir toutes les facettes de cet animal. Son mode de vie, sa biologie et son omniprésence dans nos légendes. Ça va de la bête du Gévaudan jusqu'au cœur des Monts d'Arrée. Si je vous emmène ici, c'est parce qu'en 1884, le dernier loup des Monts d'Arrée a été tué au cloître Saint-Égonec. C'est attesté par des registres, car celui qui avait tué un loup venait en mairie avec l'animal pour percevoir sa prime. L'histoire du musée, elle, commence au début des années 90, d'abord par une exposition temporaire sur le paysage et le loup. Mais l'intérêt du public est tel que le musée voit le jour en 2000. Et la scénographie a été repensée en 2014. Ce qui me marque ici, c'est la figure du meneur de loup, un personnage capable d'apprivoiser cet animal redouté. Alors je vous rassure, le musée du loup n'est pas un musée effrayant, d'autant qu'Astrid, lors de la visite guidée, s'adapte à son public.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire vraie, hein. C'est l'histoire de Marie Madec, une petite fille qui vivait en Bretagne il y a très très longtemps, dans les années 1800-1850 à peu près. Marie Madec, il y a très longtemps, elle est toute seule là-haut, dans la montagne, à garder son troupeau de moutons, quand tout à coup, il y a un loup qui sort des bois et qui attrape un de ses moutons. Marie Madec, ne se laissant pas démonter, ayant beaucoup plus de courage que moi, elle fait du bruit avec ses sabots. Le loup, si vous vous rappelez, est un gros peureux, il lâche le mouton, et il se sauve dans les bois. Arrivé là, moi, à la place de Marie Madec, j'en aurais profité pour m'éclipser. Mais elle, n'écoutant que son courage, elle court derrière le loup. Marie Madec a disparu. On l'a retrouvée 2 semaines après, au pied d'un arbre. Elle a eu faim, elle a eu soif, elle a eu très peur aussi, certainement. Mais le loup ne l'a pas touchée.
Avant de quitter les lieux, glissez-vous dans la peau du loup. Dans l'une des salles, installez-vous sur le siège. Placez votre visage dans un cercle, le même procédé que dans un photomaton, et repartez quelques minutes après avec une photo de vous en loup-garou. Mais ça, vous le ferez quand vous viendrez.
Ici.
Ici.
J'ai accepté par erreur ton invitation, j'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi. Disons, entrecoupé de silence, qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. Ça ira pas plus loin, tu vois. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. reste à savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Si j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison.
Ici, connecté avec vous.
On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir.
Partir en week-end en France.
À la mer ou à la montagne.
Et surtout avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti.
Le pont du Gard, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture construit il y a 2000 ans par les Romains à 25 km de Nîmes. C'est la partie la plus impressionnante d'un aqueduc long de 52 km qui acheminait de l'eau à Nîmes. Il y a beaucoup à dire sur ce pont, mais moi, je vais vous donner envie de le regarder autrement, en découvrant l'écrin de nature dans lequel il est posé, la garrigue. Et à la fin de l'épisode, vous découvrirez pourquoi la garrigue doit plus auberger qu'à la nature sauvage. Je m'appelle Delphine Soula, je suis animatrice à Issy-Gare-Lozère et j'adore le pont du Gard. D'abord parce que c'est le lieu emblématique de ma famille, c'est sur ces chemins que j'ai pu enlever les roulettes des vélos aux enfants, en toute sécurité. Et puis, il n'y a qu'un seul village dans le coin qui a vu sur le pont, le mien, Castillon du Gard. Mais ce pont, c'est aussi le lieu où j'ai découvert les vertus des plantes de la garrigue et que je suis devenue complètement accro à ses parfums. Bienvenue dans Partir, autour du pont du Gard, à la recherche des essences pures de garrigue.
Bonjour monsieur.
Pour se rendre au pont du Gard depuis Nîmes, prenez l'autoroute A9 la Languedocienne, sortez à Remoulins, direction Uzès, et garez-vous sur le site du pont du Gard. Vous ne pouvez pas le manquer, il est indiqué partout. Dès votre arrivée sur les lieux, juste au-dessus des trois oliviers millénaires, le pont romain apparaît majestueux. Tout autour, la nature est typiquement méditerranéenne, des pins, des cactus, des chênes verts. Le pont du Gard, quand on le découvre, il est spectaculaire. 48 mètres de haut, 3 niveaux d'arche. C'est le plus grand pont aqueduc du monde. Une vraie prouesse architecturale. Pas étonnant qu'il soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous venez en voiture, sachez que le parking est à 9 euros pour une voiture. Et l'astuce, si vous prévoyez de revenir, c'est de faire comme moi. Comme beaucoup d'amoureux de ce site, je fais transformer mon billet en passeport annuel parce qu'il est au même prix. 9 euros pour la journée ou pour l'année, c'est pareil. Au XVIIIe siècle, un autre pont a été construit, accolé au pont du Gard, en contrebas. On l'appelle le pont Pitot. C'est sur ce pont qu'on circule aujourd'hui. Il a d'ailleurs été pensé pour ça, pour permettre aux hommes, aux bêtes, aux charrettes de traverser l'eau plus facilement et pour préserver l'aqueduc romain. En plus, deux ponts, ça consolide la base pour résister aux crues. Quand vous arriverez sur place, observez le monument côté pont romain, pas côté pont Pitot. La vue est saisissante. Approchez-vous de la rivière. Mettez-vous vraiment au bord de l'eau et accroupissez-vous. C'est là que vous aurez la meilleure photo. La face romaine de l'aqueduc qui se reflète dans l'eau, avec en plus la nature autour. Si vous aimez avoir un feuillage au premier plan, c'est tellement beau. Approchez-vous encore un peu du pont et placez-vous sous le troisième pilier. Là, il y a des dessins en bas-relief. Ils ne se voient pas toujours, il faut les chercher et jouer un peu avec le soleil. N'hésitez pas à vous déplacer de quelques mètres pour ça, pour avoir un angle meilleur. Parce que la pierre est un calcaire coquillé, un agglomérat de sable et de coquillages. Alors comme les sequins sur les vêtements, ils peuvent être sombres ou brillants, selon le sens dans lequel vous regardez. Et je vous ai promis de vous faire voir le pont du Gard autrement. Je vous ai dit que ce pont servait à amener de l'eau. Il y a une canalisation tout en haut, et on va y aller. Nous allons donc quitter ce pilier, emprunter l'escalier taillé à même la colline en face de nous pour arriver tout en haut. Et tout en haut, nous allons pouvoir contempler la garrigue qui nous entoure. Je vous conseille de porter de bonnes chaussures pour grimper cet escalier caillouteux et raide. 80 marches. Si vous venez avec des petits-enfants, il va falloir les porter. La poussette, ici, ça va pas être possible. En cours d'ascension, faites une pause au niveau du panneau point de vue. Il est juste avant le sommet. La vue du pont du Gard de profil est très impressionnante. On voit sa courbure, son renflement. Finalement, il n'est pas aussi droit qu'on pouvait l'imaginer. Voici donc tout en haut de l'aqueduc romain. En face de nous, il y a un tunnel. Il est fait de blocs de pierre. C'est la canalisation dont je vous parlais qui apportait l'eau d'Uzès à Nîmes. Aujourd'hui, c'est un couloir sombre, recouvert de dalles, et nous allons marcher à l'intérieur. Il y a juste un peu de lumière tous les 10 mètres quand il manque une dalle au-dessus de nos têtes. Avancez dans le couloir, vous allez sentir toute la puissance de ces pierres millénaires. C'est curieux, quand on est sur ce pont, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a une pente pour que l'eau puisse couler. En fait, le dénivelé entre Uzès et Nîmes est de seulement 12 mètres. Les Romains avaient déterminé qu'Uzès était plus haut que Nîmes en observant l'écoulement naturel de l'eau. Ce dénivelé fait moins de 25 cm tous les kilomètres. L'eau prenait donc son temps et mettait environ un jour et demi à parcourir toute la distance. Quand on arrive à l'autre bout de la canalisation, on sort la tête du tunnel et là, paf, c'est vert. Quelle vue! Un vrai bain de nature sauvage. On se prend d'un coup toutes les couleurs de la garrigue. Du vert olive, au vert amande, le bruissement des feuilles qui se mêle à celui des insectes et puis toutes ces odeurs aussi. Le thym, le romarin, la lavande. Respirez à fond. Un shoot de bien-être et d'huiles essentielles. J'adore ce pont parce qu'il me fait voyager. Les parfums, je viens de le dire, mais le voyage se fait aussi dans le temps. Il suffit d'observer le paysage pour imaginer la vie autrefois. On aperçoit des murets de pierre sèche, des cabanes en pierre pour les bergers. On les appelle les capitelles. Il y a des plantations d'oliviers aussi, de mûriers. Oui, des plantations de mûriers. Ils ont été plantés là pour que les feuilles servent de nourriture aux vers à soie dont l'élevage était très important dans la région au XVIIIe siècle. C'est émouvant d'observer et d'imaginer tout ça. Régis Dufaux, agriculteur et cueilleur de plantes aromatiques et médicinales, engagé en agriculture biologique.
Les souvenirs d'enfance que j'ai, puisque je suis d'ici, j'ai grandi ici, donc mon grand-père était de Romoulins, donc le pont du Gard, c'était son jardin, la garrigue qui l'entoure, c'était chez lui. Donc c'est quelque chose où j'ai baigné, ça fait partie de moi, hein, vraiment, hein, parce que j'ai des souvenirs d'odeur de garrigue, quoi. C'est pas simplement, oui, je me rappelle, j'avais couru, je suis tombé sur du thym. Non, je me rappelle, cette odeur de garrigue, elle est dans moi, quoi. Et vraiment, je suis passionné de ce que je fais, parce que maintenant, j'en suis à extraire les essences pures de ces plantes qui ont embaumé mes balades dans mon enfance, en famille, en étant petit.
C'est vrai que les berges du Gardon sont un lieu familial, un lieu qui réserve bien des surprises. Si vous ouvrez les yeux et ne faites pas trop de bruit, il n'est pas rare d'apercevoir des castors sur les rochers et dans l'eau. Une rencontre magique avec un animal qui a bien failli disparaître de nos cours d'eau. Il était pourchassé pour sa fourrure et pour sa chair, pour ses glandes utilisées en pharmacopée et en cosmétique. Alors le castor ici ne bâtit pas de barrage, contrairement à son cousin canadien. Mais il entretient la rivière en avalant 2 kilos de végétation par jour. Sa présence est donc essentielle pour l'entretien des berges.
Il y a quelques endroits où les enfants peuvent sauter des rochers en toute sécurité. On peut se baigner de partout. Quand on avait le droit de monter encore à l'époque en haut du pont du Gard, hein, c'était l'accès libre. Bon, je me rappelle, je devais avoir 4 ans, c'était un petit peu impressionnant. Je me disais quand même, les adultes, ils n'étaient pas très raisonnables, hein, de nous laisser marcher là-bas, 50 mètres de haut, sachant que je savais moi-même pas très bien marcher.
C'est vrai que moi aussi, quand j'étais enfant, j'ai marché sur ces dalles pour voir la garrigue depuis en haut. Pas de rambarde, le stress absolu pour les parents. Observer le Gardon depuis là-haut, ça peut aussi vous donner des envies de baignade l'été. Si vous décidez de rejoindre les baigneurs, là, en bas, prenez des chaussures de rivière. Le lit de gros galets peut vous faire un massage un peu vigoureux. Et puis pour les enfants, ça évite les bobos. Et maintenant, tournez-vous et regardez de l'autre côté du pont, en amont de la rivière. On aperçoit une forêt de pins. Ça, c'est l'endroit idéal pour se nicher quand on est un oiseau. Et ici, vous pourrez, selon la saison, en observer des quantités. Ce lieu est connu pour abriter des espèces emblématiques de la région, comme certains rapaces, l'aigle de Bonelli, le vautour percnoptère ou le circaète Jean Leblanc. Et il y a aussi ceux, plus faciles à identifier, qui émerveillent par leurs couleurs. Les martins pêcheurs, bleu électrique, les hérons cendrés et le sublime guêpier, bleu, jaune, vert et orange. Les passionnés de photos vont se régaler. Et si vous avez une paire de jumelles, vos enfants vont adorer.
L'homme a exploité la forêt et a créé des zones ouvertes, donc bon, principalement pour le pastoralisme. S'il n'y avait pas eu l'intervention de l'homme, ce serait que des bois et des forêts de partout. Cette intervention de l'homme, ça a créé donc ce qu'on appelle ces fameux espaces ouverts qui ont laissé passer la lumière, la chaleur et qui ont permis à d'autres plantes de se développer.
Et oui, je vous ai dit au début de l'épisode que la garrigue doit plus au berger qu'à la nature sauvage. En effet, c'est grâce à l'intervention humaine que la garrigue existe. En chassant, en élevant des animaux, en cultivant, les humains ont transformé leur environnement. Ils ont défriché, divisé les terres avec des murets. Cette action de l'homme a tellement marqué le paysage qu'on le considère véritablement comme construit par l'homme. Le grand air vous aura peut-être ouvert l'appétit. Eh bien, je vous emmène dans le coin pique-nique idéal. Nous allons redescendre et nous diriger vers la colline qui se trouve juste à côté du pont romain. Vous ne pouvez pas la manquer. Cet espace de nature est en fait un conservatoire de garrigues de 15 hectares. Il s'appelle Mémoire de Garrigue. Il y a un panneau qui marque l'entrée. Et pour le pique-nique, c'est là qu'il faut venir, sur le belvédère. Vous verrez, il est fléché, donc immanquable. Et la vue est incroyable. L'été, on s'installe sous les chênes verts pour la fraîcheur. Le pique-nique au pont du Gard, c'est typiquement la tradition des dimanches de printemps chez nous, et notamment à Pâques. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière proposition à vous faire. Partir à la recherche de l'essence pure de garrigue. J'ai tellement envie de vous faire découvrir ça.
Il n'y a pas de chemin fléché chez nous, même si on croise des chemins de randonnée. Il faut aller visiter, suivre son instinct et comme ça se laisser porter et faire des découvertes, tout simplement. Il n'y a pas de risque de se perdre si on suit les chemins et il y en a pas mal et c'est une manière de sortir aussi des sentiers battus.
Maintenant que nous avons rejoint l'espace Mémoire de Garrigue, nous allons tout simplement nous y perdre. Ce lieu en pleine nature nous raconte l'histoire et les traditions de la garrigue méditerranéenne. Et ce qui est sympa, c'est d'aller chercher les essences pures de garrigue qu'on utilise en cuisine. Le thym, le romarin, la sarriette, l'origan, le laurier, le fenouil sauvage, la marjolaine. Parce que leurs qualités organoleptiques, celles qui éveillent tous les sens, le goût, l'odorat, sont bien supérieures quand elles poussent dans la rocaille. J'adore aller ramasser les herbes de Provence dans la garrigue qu'on nous vend trop cher en magasin et qui sentent la poussière. En plus, ici, on est certain qu'il n'y a pas eu de pulvérisation de pesticides. Et puis, l'accès est libre. Et quand je suis dans la garrigue, les herbes, je les repère, je les respire, elles se font désirer. Il faut les cueillir avec respect. Soyez prévoyants et pensez à prendre des petits ciseaux avec vous pour couper juste le sommet des plantes, sans les abîmer ni les arracher. Prenez aussi des petits sacs en papier pour isoler les différentes essences. Dans la garrigue, le glanage est autorisé, mais pas l'arrachage. Saviez-vous que dans la garrigue, les plantes mettent en place des stratégies pour résister à la morsure du soleil ? Par exemple, si elles ont de toutes petites feuilles ou des piquants, c'est pour moins transpirer et retenir l'eau dans leur tige. Et le soleil, c'est aussi un allié. En effet, les plantes exposées à la chaleur, au soleil intense et au manque d'eau produisent plus d'arômes aussi. Plus les conditions de croissance sont rudes et plus la plante est savoureuse et parfumée.
Ah oui, ça sent la force en fait de la garrigue. J'adore.
Et c'est vrai que tous ces parfums sont omniprésents. Bon alors, on a maintenant dans nos sachets l'essence pure de garrigue, des plantes aromatiques et aussi médicinales. Ah oui, avant de les utiliser, faites attention. Les essences de la garrigue sont puissantes, comme avec les champignons. Il vaut mieux demander conseil en pharmacie. Chez nous, ces plantes de la garrigue, on les met dans les tisanes, en bouquets, en sachets pour les armoires et beaucoup dans la cuisine. Mais ça, on en reparlera quand vous reviendrez chez nous.
Ici.
ICI.
Vous écoutez ICI.
ICI. Ici.
C'est 100%.
100% chanson française.
Salut, ici, c'est Gauvin Cerce. On écoute ensemble ma nouvelle chanson, Montée à Paris.
Un coup de cœur ici.
J'ai grandi loin des caméras, dans une famille de classe moyenne, sympathisante chez Guevara, Dylan et Souchon dans la chaîne. Il y avait les guignols dans le salon, et dans la cuisine, quelques cris. Je faisais les 100 pas, mon fiston. Alors je suis monté à Paris. J'avais pas vu tous les Godard et pas lu Shakespeare en anglais. Je trimballais juste ma vieille guitare dans les labyrinthes de Châtelet. On me disait que c'était pas mon monde et que mes rêves étaient hors de prix. Je voulais décrocher la Joconde. Alors je suis monté à Paris. Remonter les manches, monter sur les planches, déballer ma vie et celle de ceux qui ne sont pas montés à Paris. Griffonner les vers, chanter mes colères, mes utopies et celle de ceux qui ne sont pas montés à Paris. Pas de cuillère d'argent dans la bouche, mais le stylo entre les dents. Il fallait à tout prix faire mouche pour clouer le bec des méprisants. C'était à l'école de la débrouille, dans les rues du Monopoly. On a surtout bouffé des nouilles quand on est monté à Paris. C'était pour chanter toutes les nuits que j'ai troqué mon code postal. Mais je manquerai jamais sous le tapis mes origines originales. Des fonctionnaires et des prolos, de ceux qui t'apprennent la vraie vie. Ils m'appellent tous le Parigo depuis que je suis monté à Paris. Remonter les manches, monter sur les planches, déballer ma vie. Gamin de la middle class qui a connu l'enfance sans écran. Et comme j'étais le plus petit de la classe, j'avais des rêves un peu trop grands. Mais même après les disques d'or, ce qui me fait chialer aujourd'hui, c'est te raconter quand tu t'endors pourquoi je suis monté à Paris.